Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Autres. Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
Vous écoutez
Martino,
Cube Radio.
Je discute comme tous les jours avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, lorsqu'on regarde les danseurs de Rosemère, on se désole, mais lorsqu'on regarde le sondage de la presse aujourd'hui, on se console parce que le sondage de la presse affirme que 60% des Québécois vont être extrêmement prudents dans le temps des fêtes. C'est une bonne nouvelle.
Oui, oui, oui. Puis en fait, on le fait, Richard, on le voit autour de nous. La plupart des gens, la plupart des gens les respectent les règles, puis ils sont soucieux de se protéger puis de protéger leur famille. Tu sais, puis c'est normal qu'on parle des dissidents, puis de, parce que c'est, moi, ma grand-mère disait c'est tout le temps la poulie qui graisse.
Ben
qui
graisse, oui.
Fait que c'est normal que ce soit d'eux qu'on parle, mais la plupart des gens ne sont pas fous, là, ils suivent les consignes sanitaires. De toute façon, les autres sondages qui montrent la popularité du gouvernement Legault montrent que les gens y embarquent dans le plan de match du gouvernement. Là.
Ben, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Écoute, on va commencer par cette tragédie, une autre tragédie encore à Green Bay. Mais d'abord et avant tout, là, mon Dieu, versé des larmes en regardant la mère des petites filles Carpentier.
Ben, c'est ça. Hein, des nouvelles comme ça dans l'actualité, là, ça nous donne juste le goût de serrer nos enfants dans nos bras. On a vu Amélie Lemieux, là, qui a perdu ses deux petites filles, là, de façon tragique, là, l'été dernier. Là, on se souviendra qu'on a cherché, là, Nora et Ronnie Carpentier pendant plusieurs jours. Cherché leur père pendant plusieurs semaines qui était passé avec elle. Amélie Lemieux, qui nous livre un témoignage d'une énorme générosité, là, qui a l'air d'avoir trouvé une espèce de sérénité ou une force, je sais pas quel mot employer, Richard, pour parler du fait qu'elle reste une maman, même si ses deux filles lui ont été enlevées, puis qu'elle a encore un désir d'avoir des enfants. Tu sais, tu regardes ça, là, je peux pas m'empêcher aujourd'hui de faire un lien, Richard, entre cette histoire-là, Grande B, encore une fois, puis cette autre histoire-là, qui nous a tous touchés l'été dernier. Tu sais, des mamans qui aiment tant leurs enfants, qui se les font enlever, puis qui continuent d'avancer, par rapport à des enfants qui ont rien demandé, puis qui se font martyriser par leurs parents. Tu sais, on vit vraiment pas dans un monde qui est juste.
Oh non, c'est épouvantable. Mais moi, je regarde ça, là. La résilience de ces parents-là qui peuvent passer à travers des drames comme ça, moi, j'aurais pas cette force-là. Moi, ça me détruirait totalement. Et de voir cette femme-là, quelle leçon de vie. Écoute, qu'est-ce qui se passe avec la DPJ à Green Bay, là? On dit souvent c'est parce que la DPJ a été avalée par le système de santé. Le système est tellement gros, tellement énorme qu'il réussit pas à bouger assez rapidement. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui arrive?
Ben, on sait pas, hein. Puis ça fait longtemps qu'on se pose la question. C'est pas la première fois que ça revient dans l'actualité. Puis, on peut pas s'empêcher de le nommer, Richard, hein. C'est deux fois à Grande B que c'est
arrivé. Oui.
On se rappelle l'an dernier, petite fille qui était retrouvée ligotée, là, à l'article de la mort, elle décédera, là, quelques heures plus tard, là, alors qu'elle était sous la garde de son père. Là, c'est la presse qui nous apprenait ça cette semaine. Ça sort dans un jugement. Une mère condamnée au criminel pour avoir tenu son fils de 17 ans à peu près en esclavage. Là, c'est un huissier qui s'adonnait à venir porter un avis d'éviction, qui a trouvé le jeune, là, marchant à quatre pattes, là, couvert de bleu puis de fractures, là, qui prenait soin de ses deux petits frères, là, qui était à peu près pas nourri dans un appartement d'une saleté incroyable.
Et il y avait une autre histoire aussi, il y a quelque temps à Laval, tu te souviens, c'était quatre frères et sœurs, je crois, aussi, qui vivaient avec plein de chiens, qui avaient des excréments partout, pas à Laval, à Green Bay, qui avaient des excréments partout, donc c'est comme trois grosses histoires à Green Bay, là.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Oui, puis tu sais, Richard, on n'a pas mis les pieds dans cet appartement-là. Nous, là, on fait juste lire les articles, puis on a le frisson qui descend de l'autre échelle. Là. C'est absolument insoutenable à imaginer que ça arrive dans un pays dit développé, puis avancer, tu sais, comme on est arrangé au Québec, là, ça n'a aucun sens. Puis là, ben c'est ça. On a la DPJ de Granby, encore une fois. On se pose la question. Puis c'est ça. Il y a toujours des questions qui se posent. Est-ce qu'il manque de ressources? Est-ce qu'il y a trop de bureaucratie? Est-ce que la mission de la protection de la jeunesse, comme la mission de la santé publique ou celle des centres jeunesse, a été un peu avalée là, dans la réforme Barrette? Je pense pas que les problèmes qu'il y avait dans ces institutions-là remontent à la réforme Barrette. Je pense que ça fait beaucoup plus longtemps que ça que on n'a pas assez de ressources à consacrer à nos jeunes. Puis, tu sais, à chaque fois que ça arrive des histoires comme ça, des travailleurs de la DPJ qui disent, regardez, on veut intervenir, on peut pas, on n'a pas les moyens, on n'a pas les coups des franges. J'attends avec impatience le rapport de la commission dirigée par Régine Laurent.
Ben oui.
Vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe dans cette maison de fous-là.
Oh non, on a hâte. On était vraiment contents quand ils avaient choisi Mme Laurent pour diriger cette commission-là. Je trouve que c'était vraiment la bonne personne.
Oui, ben dans notre famille, TVA, LCN, on est Journal de Montréal, on était moins contents un peu parce qu'on perdait le collègue.
Oui, c'est vrai.
Et non, mais effectivement, Régine Laurent, là, tu sais, c'est vrai, je vais dire le mot en anglais, Régine Laurent, c'est une nurse. Tu sais,
oui.
Quand on regarde, quand elle était présidente de la FIC, le syndicat des infirmières, on avait vraiment l'impression que c'était une nurse qui s'adressait à nous. Tu sais, c'était pas...
Oui.
Quand tu regardes un président de syndicat, c'est dur de l'imaginer s'en aller travailler à l'usine avec sa boîte à lunch, là, ben souvent. Là. Mais Régine Laurent, la fonction infirmière dans cette personne-là a toujours été présente. On la sent comme très empathique. C'était une bonne nomination de la CAQ.
Cela
étant,
fait.
Les attentes sont au plafond archi élevé à son endroit pour qu'elle nous livre son rapport est supposé arriver le 30 avril pour nous dire qu'est-ce qui se passe à la DPJ et pourquoi même quand on fait, parce que c'est ça là, dans les histoires dont on parle, il y a des signalements qui ont été faits à la DPJ dans chacun des cas et les enfants n'ont pas été sortis du milieu. Dans le cas là, de la dernière histoire, là, le procès là pour le jeune qui a été retrouvé là, martyrisé, le dossier de la mère à la DPJ avait même été fermé. Alors, on a très hâte de savoir si Régine Laurent, à travers tout ce système-là, va avoir réussi à identifier là où ça achète, c'est quoi les obstacles pour qu'on prenne bien soin de nos jeunes et de nos enfants.
Tout à fait. Écoute, tantôt, je parlais avec Christian Rioux, le correspondant à Paris pour Le Devoir, et il me disait qu'en décembre, le fin décembre, la campagne de vaccination commence en France. J'étais jaloux en maudit. Fin décembre, nous autres, ça va être quand? Mars?
Ah oui, puis il y avait même mes jeunes qui me disaient ça. Ils disent, voyons, ils ont trouvé le vaccin comme la semaine passée, là, puis aux États-Unis, puis en France, on est déjà prêt à le distribuer. Autant d'un côté, on a l'impression que c'est très, très, très rapide, autant de l'autre. Écoute, pour bien dire les mots, je l'entendais encore nouvelle ce matin, 6 millions de doses au Canada d'ici la fin mars. Puis là, ben, 6 millions de doses, il faut compter, ça va être 2 doses par personne, donc on vaccine 3 millions de personnes, 10% de la population. Alors qu'aux États-Unis, là, 360 millions de personnes, on s'attend à avoir vacciné tous les Américains avant la fin juin. Alors, est-ce que Justin Trudeau a dormi au gaz? Ce qu'on nous dit à Ottawa, c'est non, on a des ententes avec les 7 plus gros fabricants de vaccins. On a déjà acheté des doses, mais que voulez-vous? On n'a pas la capacité de production au Canada pour faire des vaccins nous-mêmes. Puis là, ben moi, je tombe un peu des yeux, parce qu'en plus, on ajoute, on l'a déjà eu, mais on l'a plus.
Ben oui.
Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis 8 mois? Moi, je lisais des articles en mars, en avril, là, où dans la presse internationale, on disait qu'il faut que les États développent tout de suite leur capacité de production de vaccins pour être prêts à le produire, à l'imprimer et à le distribuer quand ça va sortir d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu être faites? Est-ce qu'on aurait pu conclure des partenariats pour avoir des usines au Canada? J'ai vraiment l'impression là, qu'on a un angle mort sur ce côté-là.
Ben, tout à fait. Écoute, Claude, hier, je parlais avec Emmanuel Latraverse, puis elle dit, on récolte ce qu'on a semé. C'est-à-dire qu'on avait, il fut un temps, surtout au Québec, là, on avait un secteur pharmaceutique très, très vigoureux, florissant. Tu te souviens, on prenait à 15, on allait à Laval, puis était tout là, le Big Pharma, là, un après l'autre, boum, 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 boum. Puis à un moment donné, ça a tout fermé, parce que je pense qu'on a arrêté de leur donner des incitatifs financiers, tout ça. Ils ont tout levé les feux, puis sont partis.
Oui, bien c'est ça. Puis c'est des industries hautement stratégiques, la plus forte raison en temps de pandémie. Écoute, je me ferais pas passer ce matin pour un spécialiste de l'industrie pharmaceutique, mais je ne peux pas croire qu'en mars-avril, quand on est rentré dans la pandémie, il n'y aurait pas eu moyen là, de faire un docteur puis d'appeler ces anciens partenaires-là puis de dire est-ce que tu veux me reprendre? Est-ce que tu veux revenir?
Ben oui.
Parce que c'est pas t'es produire un vaccin. C'est ce qui est dur, c'est identifier la molécule, le bon composé. Mais un coup que tu l'as, sais, c'est pas différent de pasteuriser du lait, là. C'est une recette qu'il faut que t'appliques.
Ben oui. J'ai l'impression qu'on a laissé tomber l'industrie pharmaceutique pour les jeux vidéo, là. Tu sais, à un moment donné, on s'est mis, là, à développer avec Bernard Landry, entre autres, le secteur des jeux vidéo, puis tout ça, puis on a comme oublié le pharmaceutique.
Ben, écoute, le pire, c'est que l'un n'aurait pas empêché l'autre, là. Tu sais, c'est pas parce qu'on soutient l'industrie, mais dans les deux cas, c'est l'industrie de pointe. Et il y a aussi l'usage du générique, hein. On a beaucoup, développé au Québec l'usage du médicament générique qui est beaucoup moins cher, tu sais, puis qui est plus intéressant. Mais ça, les pharmaceutiques ont pas aimé ça parce que eux autres, ils veulent nous vendre des pilules, tu sais, avec leur nom dessus puis avec leur marque. Donc, ça a pas aidé non plus. Mais effectivement, on a vraiment l'impression que depuis 15-20 ans, c'est un secteur dont on était fier. Tu parles à Laval, à Québec, même chose, là. Moi, quand j'étais étudiant, on habitait à côté d'un laboratoire qui s'appelait Anapharm, là, à l'Université Laval. Puis quand on avait de la misère à arrondir nos fins de mois, on lorgnait toujours un petit peu du côté du laboratoire.
Pour être cobaye?
Oui, c'est ça. On s'est jamais rendu là. Mais effectivement, le secteur pharmaceutique, là, aujourd'hui, c'est une résidence pour personnes âgées dans le bâtiment là, dont je te parle. Ça a amoindri au cours des dernières années. Là, j'espère qu'ils font pas sur les personnes âgées la même chose qu'ils faisaient là-bas dans le temps.
C'est ça. Ils utilisent comme cobaye. Merci beaucoup, Claude. Passe un excellent week-end.
C'est bon, à bientôt.
Salut. Michel.